Merci, merci à tous et à toutes. Merci, bonjour. Et un grand merci à la louange. Vous nous avez vraiment transportés. Vraiment, vous nous avez approchés du cœur de Dieu. Merci. Donc, je vais continuer les messages de Claude Hood. Mais je voudrais faire une petite introduction. Parce que Claude Hood me touche beaucoup dans son message. Et il m'interpelle. Et je pense que certains d'entre vous ont été interpellés. Et en ce qui me concerne, le dernier message, il m'a profondément travaillé. Et pour deux choses. C'était le message sur la prière de Jabé. Jabé demande la protection du Seigneur. Il demande que son nom soit changé, puisque son nom veut dire malédiction quoi, sur lui. Et voilà, il demande ce que ça, le Seigneur change ça et qu'il soit protégé. Et il reçoit la bénédiction de Dieu. Et dans ce message, il y avait quelque chose qui était marquant, c'était quand on manque la cible, comment on peut manquer la cible? C'est vrai que ça peut nous peser. La deuxième partie de cette chose qui m'avait pesé moi sur le message, c'est que je suis un Jabé. La vie m'a donné un nom, et ce nom, c'est la dyslexie. Et je porte ça depuis toujours. Et je demande donc à Dieu que cette dyslexie ne soit pas une charge pour ma famille, ne soit pas une charge pour mes proches, dans mon travail, etc. Et ça me touche profondément. Voilà. Donc, voilà le message de Claude Hood, quand il peut vous bouleverser, c'est aussi, quelque part, Dieu touche du doigt quelque chose qui est sensible chez vous. Et je crois que c'est le moment pour vous, quand vous êtes touché, troublé par ce message, de dire là, il y a peut-être une blessure que Dieu veut guérir. Et c'est à nous, je pense, c'est à nous vraiment à ce moment-là, de saisir cette opportunité de dire oui, Seigneur, il y a quelque chose à guérir, viens me guérir. Voilà, je vais commencer le message. Donc aujourd'hui, c'est aussi un message qui va nous interpeller. Donc, dans les récits bibliques, il y a des hommes et des femmes qui sont tellement humains qu'ils en deviennent criants de vérité. Ce sont des vérités pour vous, des vérités pour moi. Ces personnes sont plus que des figures du récit de l'humanité, dont l'authenticité et la réalité historique sont prouvées scientifiquement par des multitudes d'experts, d'historiens et d'archéologues. La Bible est un miroir où nous nous retrouvons tôt ou tard. Ces hommes et ces femmes sont ces hommes et ces femmes sont loin de nous dans l'espace, dans le temps, dans le contexte et l'époque, mais ils sont là. Ils sont là si proches de nous dans leur expérience et dans leur humanité. Nous sommes interpellés par leurs combats, leurs espoirs, leurs doutes, leurs passions et leurs chutes, parce que ce sont les mêmes que les nôtres. Dans la Bible, chaque livre, chaque personnage reflète une facette de l'expérience de l'humanité, de la découverte de ce qui est essentiel, éternel et divin. Vous pouvez y découvrir Dieu, vous pouvez y découvrir vous-même. Il y a un homme dans la Bible qui est un véritable modèle, une source d'inspiration pour tous ceux qui prient sincèrement « Seigneur, augmente notre foi ». Il s'agit d'Abraham. Si vous voulez grandir spirituellement, si vous avez soif de puissance, du miraculeux et du divin, il faut que vous portiez une attention toute particulière et passionnée à Abraham. L'apôtre Paul l'appelle le père de la foi, l'exemple, le modèle, le père de tous les croyants. Dans Ésaïe, chapitre 51, versets 1 à 4, Ésaïe nous dit ceci. Écoutez-moi, vous qui cherchez l'Éternel. Portez les regards vers les rochers d'où vous avez été taillés. Tournez votre attention vers Abraham, votre père, car quand il était seul et sans renommée, je l'ai appelé, puis je l'ai béni et je l'ai multiplié. Aujourd'hui, de la même façon, le Seigneur peut vous relever de vos ruines. Il peut faire couler une rivière de vie au milieu du désert et faire résonner des chants de joie, des éclats de rire là où il n'y avait que des cendres et de la désolation. Donnez-moi votre attention, mon peuple. Portez les regards sur Abraham. L'apôtre Paul, professeur et grand professeur, pourvu d'un double doctorat en théologie, dit dans Romains chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Les héritiers le sont par la foi, et il y a une promesse assurée pour ceux qui marchent dans la foi d'Abraham. Je vous invite maintenant à comprendre ce qu'est la foi avec un refus d'Abraham. On va chercher dans Genèse 12, versets 1 à 2. On va prendre ce texte parce que il est important pour nous, c'est notre le texte de travail aujourd'hui. Genèse 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, vers le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction. » La foi avec un refus qui caractérisait la volonté, la personnalité et la vie d'Abraham a touché le cœur de Dieu. Dieu a accompli la promesse que je viens de vous lire. Abraham est le père de millions de Juifs, mais aussi le père de tous les chrétiens, de tous les chrétiens qui ont mis leur foi en Christ hier, aujourd'hui et pour demain. Nous sommes donc des fils et des filles d'Abraham par la foi. Dieu avait promis à Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Eh bien, je crois que ces paroles de Dieu à Abraham touchent aussi nos cœurs. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas décevoir. Nous voulons être tous des bénédictions, ne faire de mal à personne. Nous souhaitons que nos vies comptent, qu'ils touchent d'autres vies et que nos enfants soient fiers de nous. Il y a donc un peuple qui voudrait être des gens bénis. Abraham nous indique la voie. La foi avec un refus est à la portée de chacun, de chaque croyant, et ses promesses sont vivantes pour nous aujourd'hui. Amen. Donc je vais maintenant vous proposer une dimension de la foi. Normalement il y en a trois dans le livre, mais aujourd'hui je vais m'attarder que sur une partie. Donc la foi avec un refus de recevoir le surnaturel. Dieu appela Abraham à sortir de la maison de son père. Il faut comprendre ce que dit Dieu à Abraham pour que nous saisissions pleinement la portée et la signification profonde de cet appel. Abraham, avec son père et leur clan, avait quitté Ur, en Chaldée, pour Canaan. Canaan représente la terre de promesse, la destinée, l'épanouissement, l'accomplissement. La route était éreintante, éprouvante. Ils vécurent plusieurs épreuves et tragédies. Puis, ils s'arrêtèrent dans un lieu appelé Charan, une ville située à environ 1000 km à l'est de l'Euphrate, au nord de la Syrie. Ils avaient parcouru un peu plus de 2/3 de leur parcours et ils s'arrêtèrent là, à Charan, exténués physiquement, mais fatigués aussi spirituellement. Le mot Charan, en hébreu, signifie lieu de sécheresse, lieu du petit fruit. Et je vous demande d'être attentif, car c'est important, de garder ça en mémoire. Charan, lieu du petit fruit, lieu de sécheresse. Abraham et son père sont appelés à la bénédiction, à l'épanouissement et à l'abondance. Il en est de même pour nous. Jésus a fait aussi cette promesse. Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Le mot vie utilisé en grec est zoé, et cela exprime la notion d'être complet, guéri, épanoui, fructueux et abondant. Et ça aussi, c'est important de le garder en soi, parce que ça explique aussi ce qui va suivre. Abraham et son père sont tous deux destinés à se rendre à Canaan. Mais ils s'arrêtèrent au lieu du petit fruit. Ils acceptèrent donc la médiocrité, eux qui étaient appelés à l'abondance. Que s'est-il passé? La Bible n'en parle pas, mais tout est possible. De toute façon, ils n'avaient pas l'intention de rester à Charan longtemps, et pourtant, ils moururent à petit feu dans le lieu du petit fruit. Et ça nous interpelle, comme nous, les chrétiens modernes, qui sans trop s'en rendre compte, se disent « Je peux toujours revenir à Dieu demain. Je le peux, si je le veux. Bientôt, je vais le faire. Je vais me reprendre en main. Nous allons nous arrêter un petit peu, prendre un peu de recul, un moment de réflexion. Finalement, je me dis que je ne suis que de passage dans ce lieu de petits fruits. Je suis pourtant appelé de Dieu à de grandes choses. Et je sais que je vais m'emparer de mon Canaan, de notre Canaan, un jour. Mais attention, les semaines, les mois, les années s'envolent très vite dans ce lieu de petits fruits. Et la mort spirituelle rôde. Je me pose cette question personnellement. Dans quel lieu je me trouve? Où est-ce que je suis? Vous pouvez aussi vous poser cette question. Où est-ce que vous vous trouvez? J'ai pas de leçon à donner. C'est vraiment vous, en vous-même, et cette relation avec Dieu en direct. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis? Êtes-vous dans le lieu du petit fruit, à Canaan, ou alors en chemin vers votre destinée que Dieu a préparée pour vous, pour moi? Si vous êtes dans le lieu du petit fruit, ne vous justifiez pas, mais reprenez la route pas à pas, avec une repentance, avec un engagement à l'appel que Dieu vous a donné. Confrontez-vous à tout ce qui vous fait manquer la cible et ouvrez votre cœur à Dieu. Il y a une réalité où les gens restaient trop longtemps dans le lieu du petit fruit à Charan qui agonise. Je crois à la manifestation authentique des dons spirituels. Le Saint-Esprit déverse dans ses dons aujourd'hui, partout, sur les églises, sur nous-mêmes, dans nos vies, de façon abondante et totalement surnaturelle. Je crois aux paroles prophétiques pures significative et incontestable. Vous êtes à Charan ? Levez-vous et reprenez le chemin. Dieu a un cœur qui éclate de potentialité et de passion pour un Charan d'abondance réservé pour chacun de ses enfants. La foi avec un refus se réalise avec chaque fibre de son être. Je ne mourrai pas dans le lieu du petit fruit, dans le lieu de sécheresse. Je refuse cette petite existence de petits changements, de petites transformations et de petits résultats. Oui, je refuse. Et vous refusez aussi ça. Nous refusons ensemble Charan, lieu du petit fruit, qui finalement nous apporte que des petites victoires et une petite vie. Dieu nous appelle et nous destine à nous emparer de notre Charan, de notre Canaan, pardon. C'est ce que Dieu fit avec Abraham. Il appela à sortir de la maison de son père. Alors je ne me prétends pas de m'élever au-dessus de vous. Non. Je suis comme vous. Nous ne sommes pas appelés à nous comparer les uns les autres. Je crois cependant que la foi avec un refus, la foi qui désire recevoir ce qui est surnaturel, doit aspirer à plus qui l'entoure, à plus qui a été notre norme acceptable, notre minimum spirituel tolérable. C'est une question de survie spirituelle. Quelque part, je vous demande de se dépasser. Oui, Dieu appelle et dit, sors de ta captivité, je t'appelle à la conquête. Sors de ta vision réduite, je t'appelle à une véritable révolution. Sors de la pauvreté spirituelle, je t'appelle à une plénitude surnaturelle. Sors de ton esclavage, je t'appelle à des exploits. Sors de l'église insipide, je t'appelle à une église qui inspire. Sors de ta mentalité de Charan, je t'appelle à un miracle de croissance. De croissance pour vous personnellement, de croissance pour nous tous, de croissance pour notre église. La Bible fait une promesse extraordinaire à tous ceux qui disent sincèrement « augmente notre foi ». On peut lire dans Joël, chapitre 3, versets 1 à 2. « Dans les jours de la fin des temps, lorsque les époques modernes seront arrivées, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles connaîtront et déclareront les désirs de Dieu. Les anciens auront des rêves, et nos jeunes gens auront des visions, alors que tout le peuple, sans exception, je répandrai de mon esprit. Dieu ne s'imposera jamais à qui que ce soit. Cette promesse et cette possibilité d'expérience spirituelle sortant de l'ordinaire est pour ceux et celles qui le désirent passionnément. Je crois que cette promesse est pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre vous, pour notre Église. Ne nous comparons pas à qui que ce soit, non. Ne désirons pas non plus les expériences spirituelles d'une autre personne que Dieu a accordée. Mais nous désirons simplement l'accomplissement de cette promesse dans nos vies, pour nos familles, nos ministères, notre ville, notre pays. Amen.